Oui. Oui, c'est pour ça qu'on a inversé. Oui. Attendez, attendez les micros, comme ça tout le monde.
Oui, merci. En fait, une petite question pratico-pratique qui est venue ici de mes voisines aussi. Nous habitons Charleroi. Nous souhaitons effectivement cultiver notre jardin, manger aussi des carrés potagers. Mais nous nous interrogeons tout simplement sur la pollution des sols. Et donc, nous souhaiterions savoir s'il existe une cartographie de la pollution. On a quelqu'un de Jean Blou, c'est formidable, parce que bon, voilà, ce sont des gens qui sont impliqués. Et si ça n'existe pas, est-ce qu'on ne peut pas élaborer ce projet en collaboration avec la ville ou en partenariat, ou est-ce que l'université ne peut pas se pencher sur cette question? Parce que je crois que c'est une vraie question.
Oui. Attends, si vous attendez le micro.
Merci. Moi, j'habite dans la cuvette à Marcinelle-Centre, derrière la gare. Pardon ? Oui, voilà. Et je me posais la même question que vous, donc j'ai fait analyser la terre de mon jardin. J'ai un mini-jardin, un ticket de bus, quoi. J'ai fait analyser la terre, c'était dans une institution qui fait partie de la province de Hainaut, et la terre de mon jardin est parfaitement saine. Il ne faut pas l'amender du tout, elle est nickel. Voilà. Mini témoignage.
Mais est-ce que quelqu'un peut répondre
sur... Oui,
quel est...
Lors de mes recherches sur le rapport Nourrir l'Europe, j'avais été tombé sur un autre rapport sur la pollution des sols en agriculture urbaine, et... j'ai plus les références ici en tête, mais on pourrait vous l'envoyer. Mais c'était une université avec le ULB, avec le bureau d'études Green Loop. En gros, ils disaient éviter les légumes, donc faire des analyses, voir les métaux lourds et surtout les polluants organiques. C'est les pires parce que les nouveaux insecticides et tout sont terribles. Mais bien faire des légumes feuilles et les laver, éviter les légumes racines si c'est pollué. Et puis l'idéal, c'est de cultiver hors sol, c'est-à-dire de faire des bacs comme vous avez vu à Cuba de 50 cm et fabriquer un nouveau sol en fait pour éviter les pollutions.
Oui. Pour continuer à répondre à la question par rapport aux cartographies, je sais qu'en région bruxelloise la cartographie est complète. En région wallonne, je sais qu'il y a un chantier qui est en train d'être mis en place pour la rendre accessible à tout le monde sur internet. Mais pour le moment, c'est encore parcellaire, je pense. Et donc, le mieux, c'est de s'adresser à l'administration communale. Et eux peuvent aussi vérifier, en termes de pollution, souvent, la première chose à faire, c'est de voir l'historique du site, si on a eu une tannerie dans le fond du jardin pendant des années. À l'époque, on peut se douter qu'il y aurait une pollution. Et les dépollutions qui sont faites pour les constructions permettent aux gens de vivre normalement dans leur jardin, mais ne sont pas suffisantes pour cultiver des légumes en toute sécurité. Donc un des conseils, c'est soit analyser le sol comme Madame a fait, effectivement au CARA ils font ça, soit cultiver en hors-sol comme on fait chez nous, parce que le cas que j'ai présenté justement, c'est pas seulement pour laisser jouer les enfants dans le gazon, c'est aussi parce que le sol a un historique de pollution, donc on fait en hors-sol.
Oui, mais... Pour clarifier, est-ce qu'il y a quelqu'un... Donc, en fait, ça n'existe pas une ressource, un service public qui peut vous donner la qualité de la terre, de l'air. Oui, là-dessus, parce que c'est quand même une question très précise. Et si ça n'existe pas, c'est quand même un avis à donner parce que ça devrait exister, en fait. Hein, c'est quand même une donnée de base sur...
Oui, dans le cadre du Up Créatif de Charleroi, on est en train de préparer une opération avec une centaine d'étudiants de l'UMONS qui sont des étudiants en ingénierat. On prépare un hackathon sur le thème Habiter Charleroi demain, et je me réjouis que toute une série de choses très intéressantes qui ont été dites aujourd'hui se retrouvent un peu dans les thèmes qu'on prépare pour le hackathon. Justement, il y a un des thèmes qui concerne l'agriculture urbaine et la dépollution des sols. Enfin, c'est ce qu'on voudrait soumettre aux jeunes pour qu'ils trouvent des solutions innovantes dans ce domaine-là. C'est le principe d'un hackathon. Et ça m'amène à avoir fait quelques recherches, notamment sur Internet, hein, pas très, pas très compliqué, et je n'ai plus les références comme ça en tête, mais il y a déjà une série d'études, malheureusement pas toujours récentes, qui existent, notamment sur la pollution des sols, et je crois même qu'il y a une étude qui se décline sur toute la région wallonne et qui permet d'aller voir des statistiques assez précises sur Charleroi. Mais encore une fois, peut-être pas tout à fait récente, je pourrais effectivement transmettre ces références à qui les souhaite. Merci.
C'est sur cette question, madame, parce que il y avait...
En fait, il y a une étude qui a...
Mais
en fait, il y a une étude qui a été faite, les prélèvements ont été faits en 2010 et 2011 sur toute la région wallonne et toutes les zones industrielles et post-industrielles, qui a été coordonnée par SPAC et menée par toutes les universités wallonnes. Les résultats ont été faits avec des analyses de sol et des analyses de légumes dans les potagers et sur différents terrains. Les résultats, il n'y a rien de très alarmant, même si effectivement il y a des teneurs qui ont certaines concentrations. D'une part, parce qu'il y a... En fait, les sols sont plus dangereux que les légumes, parce qu'il y a un passage du sol aux légumes qui est relativement filtré. Et donc, à l'issue de ce grand projet Pollusol, les recommandations étaient essentiellement sur les usages, donc se laver les mains et surtout se laver les pieds, les chaussures, les poussières que ramènent les animaux et les enfants dans les maisons. Donc c'est vraiment en termes de recommandations qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui sont des conseils de bon sens qui ont peut-être un peu disparu aussi avec le système agroalimentaire qu'on a, notamment laver les légumes très soigneusement, se laver les mains avant de manger, enfin des choses de bon sens, mais par lesquelles on peut se contaminer beaucoup plus fort qu'en cultivant ces légumes. Donc la cartographie existe, elle doit être disponible, mais je n'ai pas été voir si elle l'est réellement, sur le site de SPAC.
Encore monsieur, et puis je reprends l'ordre qui est un peu... Oui.
Alors, très vite, je crois que ce sont les études auxquelles je faisais référence, et madame aussi, je crois que ça s'appelle Pollusol, tout simplement, 1 et 2. Je me souviens bien, il y a deux études. C'est bien, c'est 2 ? Ok, voilà, Pollusol 2. On tape ça sur Internet, je pense qu'on les trouve sans problème.
Je reprends ici la suite des interventions, mais enfin, tout ça, tout ce petit round, naturellement, en faire un outil citoyen de transfert du savoir, parce que tout un chacun n'est pas sur les sites internet des chercheurs. Il faut que, positivement, on en fait un outil citoyen aussi, je pense que là. Oui, qui
moi, oui. Ici.
Benoît.
C'est peut-être une remarque, une réflexion que j'avais envie de poser à M. de Scuiter, mais il est déjà parti, donc peut-être c'est aux intervenants ici que je voudrais la soumettre, mais c'est le rapport de force à l'occupation du sol, qui n'a pas du tout été abordé dans la discussion aujourd'hui. C'est-à-dire le rapport de force par rapport à l'occupation du sol. Vous l'avez un tout petit peu abordé en parlant de bois fort, par exemple. Mais donc c'est quelque chose, un débat qu'on voit de manière constante réapparaître en ville, et je mets ville au pluriel. C'est l'espèce de rapport de force sur logement versus agriculture urbaine, qui est un rapport de force que je trouve inquiétant parce que les deux sont nécessaires dans la ville. Mais je ne vois pas de solution, je ne vois pas de piste de sortie à ce rapport de force, et je ne vois pas tellement de manière de s'en sortir, je dirais, actuellement par rapport à cette opposition. Peut-être pour m'expliquer un peu, c'est des débats qui ont lieu dans les villes qui connaissent une décroissance démographique relativement forte, où il y a bien sûr une population qui augmente, du coup un besoin au logement qui augmente également, du coup l'obligation de construire, voire rénover. Et si on ne le fait pas, c'est l'augmentation des prix du logement, etc. Et pour compenser l'augmentation des prix du logement, il faut construire du logement social. Il faut le faire sur des terrains qui sont déjà souvent occupés par d'autres types d'activités. Et donc, voilà, ça bloque. Et moi, dans ma pratique professionnelle, je vois que ça bloque. Je ne dirais pas à quelques endroits, ça bloque absolument partout. Et je trouve ça extrêmement inquiétant, ce blocage. Donc, je voulais... Voilà, c'était une question que j'avais aussi par rapport à cette notion par rapport à la notion d'agriculture urbaine, mais aussi de logement, parce qu'il faut les deux. Comment faire peut-être une question, c'est aussi, est-ce que vous connaissez des bonnes pratiques? j'ai des expériences professionnelles également en France. Je vois qu'en France, c'est la même chose, en fait. C'est le même débat qui émerge partout. Donc voilà, c'est plutôt une sorte de point d'interrogation. Comment faire pour sortir de ce débat-là et de ce rapport de force?
Je voudrais faire une réflexion et poser une question. La première, par rapport à ces initiatives locales, j'appartiens à cette génération qui a encore connu les cercles horticoles, où on s'échangeait les graines, les bonnes pratiques, et j'étais fasciné quand ma grand-mère m'a donné mon petit mètre carré de jardin où j'ai fait pousser des pois, etc. Je voudrais dire que bon, c'est très bien que cela revienne. Je suis sylviculteur de formation de Grand Manil. Il y aurait des chroniques merveilleuses à raconter sur la redécouverte du jardinage par les citadins, les urbains, où, bon, voilà, il y a des choses. Moi, un cousin, il n'y a pas tellement longtemps, s'est étonné que le pépin de poirier qu'il avait mis et qui a donné donc un cognassier ne donne pas de poire encore. Et bon, il y a là une série de pratiques quand même qu'il faut retrouver. Mais je m'en réjouis fortement. Je voudrais donner une information sur le fait que l'Université Ouverte va initier dans les temps qui viennent un répertoire, un annuaire des pratiques convivialistes dans la région de Charleroi. Parce qu'il existe des fermes, il existe des chèvreries, il existe une série d'initiatives, et je pense que ce répertoire n'existe pas. Et ma question maintenant, je suis étonné, il ne me semble pas qu'il existe en Belgique, en Wallonie, l'équivalent des AMAP français, c'est-à-dire qu'un consommateur s'engage vis-à-vis d'un agriculteur ou d'un producteur avant la récolte, à un prix fixé, à acheter sa production. Il ne me semble pas que ces dispositifs existent en Wallonie, où sont formalisés, comme c'est le cas de manière très précise en France, avec d'ailleurs la publication des mouvements de la fourche aux fourchettes, etc. Je n'ai pas le sentiment que les dispositifs existent.
Deux questions, quand même.
Oui, je vais commencer par la première.
Oui.
Comment faire pour lutter contre ce rapport de force entre le logement et les terres agricoles en ville? Il y a deux choses, comme on l'a expliqué tout à l'heure, soit ça vient du haut, soit ça vient du bas. Quand ça vient du haut, j'ai deux exemples. La ville de Bruxelles la région bruxelloise est en train de mettre en place une politique alimentaire qui s'appelle la stratégie Good Food. Et dans le cadre de cette stratégie, il y a toute une série de mesures qui ont été établies par des démarches participatives et par la participation d'experts, et puis validées par le gouvernement in fine. Et ces recommandations recommandent de sauvegarder ces terres. Maintenant, comment les sauvegarder? Parce que c'est facile de dire qu'il faut les sauvegarder. Et la solution que l'administration bruxelloise a choisie, c'est de commander une étude plus juridique pour pouvoir arriver à atteindre les objectifs de cette stratégie, y compris cet objectif de préservation des terres. Donc ils n'ont pas encore, le rapport de l'étude n'est pas encore arrivé à la conclusion de comment il faut faire, mais la démarche est en train d'être menée. À Montréal, il y a un exemple où ils ont une solution. Il n'y a jamais une solution valable pour tout, mais ils ont une solution. C'est tous les potagers communautaires ont été répertoriés, justement l'importance de répertorier, d'avoir des indicateurs, etc. Et sur base de ça, ils ont fait une pétition qui a recueilli plus de 30 000 signatures. Il y a eu un référendum et tous ces potagers sont devenus espaces verts, même s'ils étaient dans des zones d'habitat ou des zones constructibles. Du coup, on ne peut plus rien faire dessus, à part des potagers ou des espaces verts. Donc ça, c'est une des solutions. La solution qui vient complètement du bas est un exemple, c'est de nouveau à Boisfort. Là, ce n'est pas un golf qui s'est installé. Il y a un énorme projet de logements sociaux, justement, au niveau du champ des Cailles. Et en fait, ils ont un projet du même style que très coopératif, comme Copeco. C'est les gens n'achètent pas les légumes aux producteurs. Ils vont récolter directement dans le champ et ils payent une sorte d'abonnement. Et du coup, ils ont fédéré une communauté tellement énorme que le politique et les décideurs n'arrivent pas à les mettre dehors. Et ils ont déjà obtenu que 2/3 de leur terrain serait sauvegardé. Et ils continuent à se battre pour essayer d'avoir tout le terrain. Donc voilà, des petits exemples comme ça qui montrent que le rapport de force, il y a moyen de le contourner. Mais effectivement, je connais aussi beaucoup d'échecs et on parle souvent des choses qui fonctionnent bien. Et pas beaucoup des échecs, mais voilà, ça existe.
Pour les AMAP, en fait, à Bruxelles, il y a le réseau des GASAP, des GAS et des GASAP. Alors la petite nuance à l'époque, mais c'était il y a 8-9 ans, c'était, il faudrait revérifier, Mais il y a les GAS, c'est les groupements d'achat solidaires, non, les GAC, groupements d'achat collectifs, groupements d'achat communs, merci, qui ne soutiennent pas forcément le paysan. Donc c'est des urbains qui s'organisent pour collectiviser ça. Et puis il y a les GASAP, c'est les groupements d'achat solidaires à l'agriculture paysanne, qui eux, les urbains, s'organisent, mais soutiennent avec un abonnement payé à l'avance les agriculteurs. Mais il faut aller sur GASAP, réseau GASAP Bruxelles, je ne sais plus. Et juste une petite boutade, je ne pense pas qu'il faut sortir du rapport de force, je pense qu'il faut entrer dedans. Et la politique, la démocratie, c'est vraiment l'art de la gestion des conflits, et une société sans conflit, c'est mauvais signe.
Oui, attends. Parce que, oui, la réponse n'est pas quand même tout à fait donnée.
C'est ça, il y a 40 000 familles qui attendent un logement à Bruxelles, 40 000 ménages qui sont en attente de logement social ou sur les listes d'attente. Et donc, ma question était plutôt justement le champ des cas, et pour moi exactement le contre-exemple. C'est-à-dire que c'est un terrain public, on connaît la rareté des terrains publics, et je suis gêné en fait par la réponse que vous donnez. C'est-à-dire qu'il faut en fait arriver à construire du logement social d'une manière ou d'une autre, y compris à Boisfort, où on fait de l'agriculture urbaine. Mais comment le faire? C'est ça le sens de ma question. Parce que je ne... Comment dire? Je pense qu'il faut, effectivement, l'agriculture urbaine, l'alimentation, etc., est une notion importante, est un enjeu, mais le logement l'est également. Et donc, ce qu'on voit également apparaître comme phénomène, du coup, c'est un report de la construction du logement social, là où il est plus facile de le faire, là où les résistances locales sont moins fortes, etc. Et je trouve que du point de vue de l'équité sociale, on est vraiment dans une équation, qu'on n'arrive pas à dépasser. Et la question que j'ai, au-delà du fait que le rapport de force est nécessaire, je suis d'accord, mais comment faire pour quand même trouver une solution par rapport à ces familles qui attendent du logement et, d'un certain point de vue, la construction qui est bloquée un petit peu partout par des arguments type alimentation urbaine, agriculture urbaine, etc., par rapport auxquels je n'ai pas de problème, mais... Il y a des familles qui attendent des logements.
Mais j'aimerais quand même élargir aussi un peu la question sur les rapports de force, parce qu'il ne s'agit pas seulement, disons, de choix sur l'allocation du sol, que faire du sol. Il s'agit naturellement aussi de... Enfin, l'exemple que vous donnez sur le food plan à Bruxelles, pas mal, mais dans le plan régional de développement, qui est un aménagement du territoire, il n'est pas mentionné. Et donc, comment territorialiser le food plan n'est pas repris dans la planification territoriale. Et en plus, le mois passé, on a discuté sur l'argent. On a vu aussi que, avec la financiarisation totale du système monde actuellement, il y a le fixe, le matériel, et donc beaucoup d'argent spéculatif qui a besoin d'immobilier, en fait. Un immobilier qui n'est pas rentabilisé par rapport à la fonction de logement nécessairement, mais par rapport à simplement l'achat et la privatisation donc, de la ville, à qui appartient la ville. Donc c'est quand même un questionnement sur lequel on ne peut pas être naïf, le rapport de force, il faut rentrer dedans, Pablo, mais les petites initiatives par rapport au grand poids structurel, il faut quand même organiser le camp différemment pour entrer dans ce rapport de force.
Oui. Oui. Donc, vite, pour répondre au problème de la stratégie Good Food n'est pas reprise, on parle du PCDR ou du PRDD.
PRDD, oui.
Voilà, PRDD. Donc, c'est deux stratégies différentes liées à des personnalités politiques qui ne sont pas spécialement du même bord, qui ne sont pas spécialement de la même administration. Et c'est un problème qui a été soulevé par Olivier de Scutter. Ce qui serait intéressant, c'est que quand on met en place une stratégie pour une ville, par exemple, si une se met en place ici à Charleroi, c'est que pour que ce soit possible et que ça perdure et que ça fonctionne, il faudrait que qu'une personne soit désignée pour s'assurer que les autres stratégies de la ville en tiennent compte. Et au final, c'est aussi une certaine forme de lobby. Mais bon, ça, c'est un problème qui est évident et je partage tout à fait votre avis. Après, le problème lié aux logements sociaux, moi je confirme ce que j'ai dit, il faut vraiment que le champ des cailles protège cette zone qui est une des dernières parcelles agricoles au cœur de la ville. C'est un poumon vert, il y a plein de, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plein d'impacts positifs uniques pour la région bruxelloise à cet endroit-là et à peut-être une dizaine d'autres endroits seulement sur toute la région qui compte plus d'un million 200 000 habitants. Donc il faut vraiment, à mon avis, rien lâcher là-dessus. Mais je comprends tout à fait votre inquiétude et ça rejoint des choses qui ont été dites tout à l'heure par rapport aux énergies fossiles, à la perte des terres arables, etc. C'est que ce que vous expliquez, c'est qu'il faudra toujours plus de logements, mais le problème, c'est qu'on n'aura jamais plus de ressources non renouvelables. Les ressources non renouvelables, elles sont là, on les utilise. La terre en est une, et une très importante par rapport à la question d'aujourd'hui, qui est nourrir les villes. Donc, à un moment, il faut se poser les questions et se donner les moyens de trouver les solutions, ou alors on va arriver aux effondrements annoncés par Pablo. Et si on peut faire un petit exercice tous ensemble, j'ai quelque chose à vous proposer pour comprendre de façon très pratique comment ce qui est expliqué par Pablo n'est pas juste une probabilité discutable, ça va dépendre des technologies qui vont arriver. C'est vraiment une question de ressources limitées. Donc si vous prenez tous votre feuille, c'est une ressource non renouvelable, vous n'avez qu'une feuille là, elle fait une page A4. Si vous la pliez en deux, vous faites une chose. Hein. Vous pensez que vous pouvez le faire combien de fois ça, sur la même feuille? Est-ce que des gens dans la salle pensent qu'on peut le faire 7 fois? 6 fois? Donc en fait, c'est exactement le problème, c'est que si les exploitations des ressources limitées sont exponentielles parce qu'on est de plus en plus nombreux, eh ben, on va toujours avoir facile de plier la feuille en deux au début, puis de plus en plus difficile, et à un moment c'est pas possible et on arrive au point de rupture. L'exemple des logements sociaux et des villes qui n'arrêtent pas de grandir, ben, c'est ce problème-là. On peut aussi trouver des solutions comme à Hong Kong où on bâtit des immeubles qui font 40 étages, mais c'est reporter le problème plus loin. C'est si on utilise un gros compresseur, en fait non, le nombre de pliages limite c'est pas 6, on peut arriver à 7, on peut arriver à 8, vous pouvez trouver des gens qui ont essayé de faire ça, mais ils n'arriveront jamais à 10 ou à 12. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à tout ça.
J'ai une question pour vous. Qui pourrait me raconter l'état de l'agriculture urbaine ici à Charleroi, moi qui ne connais pas cette ville? En 2 minutes, quoi, 1 minute ou 30 secondes. Est-ce qu'il y a des acteurs de l'agriculture urbaine qui mettent les mains dans la terre? Et je voulais savoir quelles sont vos difficultés ici à Charleroi, les écueils, les problèmes, les freins que vous avez eus. Et est-ce que vous faites un lien avec la Food Cup qui va naître? Enfin, est-ce que c'est déjà fait, en fait? C'est ma question.
Oui. Il y a une réponse là? C'est pas là-dessus.
Allô? Moi, je suis agricultrice à Charleroi. Sur un tout petit terrain, je n'avais pas besoin de politique, je n'avais pas besoin de subsides, j'avais juste besoin d'un petit terrain, j'avais besoin d'un peu d'argent, mes mains, on est à deux. Et on a commencé à produire il y a 2 ans et le succès était assez phénoménal. Voilà.
Vous voulez encore intervenir ou?
Non. Ah. Non, donc visiblement, c'est un savoir qui n'est pas transversal, c'est-à-dire les réponses sont toujours études des cas, événements, etc. Donc c'est un projet vraiment à construire. Je trouve que c'est assez clair dans ce débat. Il faut se mettre ensemble, faire le diagnostic ensemble et pas seulement secteur par secteur, disons activité par activité, mais de façon transversale. Et je pense aussi pas de façon naïve, parce que naturellement l'occupation du sol, c'est aussi le partage des ressources. Hein. Quand il y a un choix, faut aussi, les riches ont quand même des occupations du sol plus grandes que les pauvres aussi. Et donc, il ne s'agit pas de travailler en moyenne. Il s'agit aussi de le vrai problème dans tout ça pour vivre ensemble en ville, c'est l'inégalité sociale aussi qu'on ne peut pas dans toutes ces questions éliminer. Donc si cela n'est pas pris en charge dans un plan d'alimentation, ça risque naturellement d'être très NIMBY aussi. Hein, parce que quand on voit là où il y a l'espace, c'est en Bruxelles par exemple la deuxième couronne, l'enjeu ne joue pas à Molenbeek, il joue à Boisfort, et ceux de Boisfort veulent maintenir les potagers urbains, mais en même temps, ça leur aide à ne pas augmenter la part des logements sociaux. Hein. Boisfort est un mauvais exemple, mais enfin, Woluwe. Donc, en fait, il y a des enjeux, disons, à plus grande échelle, à repartir aussi. Hein. Il faut donner des potagers à Molenbeek et peut-être un peu plus de logements sociaux à Woluwe aussi. Est-ce que... Oui, monsieur ?
Concernant la région de Charleroi, je peux vous dire, et je profite du coup de remercier monsieur de Grandmanin pour le coup de pouce pour les serres horticoles. Malheureusement, deux serres horticoles arrêtent dans la région de Charleroi, Lourdes-Linsert, Mont-sur-Marsin. Celui de Roux continue pour l'instant, mais celui de Jumet, où vous pouvez venir tous les premiers lundis du mois à 19h, 102 chaussée de Gilly. Nous avons, pour vous donner une progression, depuis le mois de janvier, 8 participants le 2 janvier, puisque c'était le premier lundi, le mois suivant, 13, et ici au mois de mars, le 3 mars, eh bien nous étions 21. 21, dont certains, madame, votre petit jardin, il peut produire, même s'il a la grandeur d'un ticket de bus, il peut produire beaucoup. Et je suis persuadé que dans l'assistance, si tout le monde se remettait à un peu travailler dans son jardin, on arriverait à produire des produits sains. Encore une chose qui va se faire à la réunion prochaine, grâce à un kit que vous deux vous connaissez très bien, c'est un kit allemand qui permet, avec un peu de réactif, de savoir si la terre est acide ou pas. Parfois, c'est intéressant, parce que vous n'aurez pas de carottes si vous n'avez pas de choux dans votre sol. Ça vaut la peine. Voilà. Donc, premier lundi du mois, 19h, 102, chaussée de Gilly.
Ça, je m'excuse, je pense que ça va être le mot de la fin, parce que le temps est déjà dépassé. Non, on va arrêter ici pour le... Hein, parce qu'il est 1h15. En remerciant tout le monde de votre présence, en ajoutant pas trop de conclusions, moi, ce que j'ai appris sur ces sujets, c'est un, il s'agit aussi de faire des liens. Et donc, en réalité, toutes ces propositions, sans une solidarité humaines ne vont pas réussir. Et puis une autre conclusion, c'est que j'apprends toujours, c'est de regarder le projet de faire ville ensemble par cet angle-là, produit une autre forme d'urbanisme et d'organisation, et pas seulement par le bâti. Hein, c'est comme par exemple ces perspectives de regarder une ville pour les enfants. Ça donne aussi une autre forme d'urbanisme. Et donc, c'est très intéressant, je pense, de vraiment continuer, parce qu'on commence avec la bonne bouffe, mais puis il y a l'agriculture, puis il y a l'espace, puis il y a l'emploi du territoire. Et donc, toute la problématique qu'on traite régulièrement ici se réorganise. Mais la mission est claire, c'est que il y a un savoir tout à fait dispersé à Charleroi, dans la métropole Charleroi, et donc il y a vraiment une tâche à mettre tout cela ensemble et disponible pour tout le monde. Je pense que nous avons passé une matinée très intéressante. Avant de vous remercier et conclure, j'annonce que la visite de Gand va être organisée à une autre date, parce que le conseil communal, non pas le conseil, le collège de Gand étant mise au vert à ce moment, et on organise avec eux, ils vont vous recevoir là et vous montrer des projets de ville, etc. Donc, on vous communiquera une autre date, mais de toute façon, la date du 20 mai est absolument maintenue, où on discutera le commerce urbain, donc en vous conviant à ces prochaines activités de la Charleroi Academy et en vous remerciant pour vos contributions et le bon débat. Voilà, bon apéritif et merci.